L'été avance et la Grande Table poursuit son itinéraire estival sur les chemins de la création. À 13h30, nous ferons le portrait de la bédéiste Laurel, qui expose des extraits de carnet à la Hubertie Brin Galerie de Paris. Mais avant cela, nous partons sur les traces d'une histoire douloureuse, celle de l'Espagne franquiste. Le documentaire Le silence des autres, de Robert Brahar et d'Almudena Carracedo, sort enfin en DVD. Ce film raconte l'histoire méconnue du pacte de l'oubli, les lois d'amnistie couvrant les crimes de la dictature franquiste et le combat des victimes pour se faire entendre dans ce silence de plomb. C'est de ce déni de mémoire dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Nancy Berthier, professeure d'art visuel et auteure du franquisme et son image aux presses universitaires du Mirail, et de Carole Vinals, maîtresse de conférences en espagnol à l'Université de Lille. Bienvenue à tous sur France Culture.
Grande table d'été, Maïlys Bessery.
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, Le silence des autres, ce documentaire qui a fait beaucoup de bruit en Espagne, Nancy Berthier, qui a été vu par plus d'un million de spectateurs au cinéma et puis qui sort enfin en DVD. Ce film n'est pas le premier sur la question du silence autour du franquisme et du silence autour des crimes de la dictature.
Absolument. Depuis, en particulier les années 2000, un certain nombre de documentaires ont abordé cette question, notamment à la télévision, les fosses de l'oubli. Mais c'est le premier documentaire qui atteint une audience de cette ampleur, dans la mesure où il tombe à pic. Dans le contexte d'une actualité par rapport à la question des fosses communes et de la mémoire du franquisme qui est mise, on va dire, au jour avec le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez.
Alors on va revenir un peu sur l'histoire. Carole Vinals, d'abord quelques dates importantes. Le pacte de l'oubli, expliquez ce que ça recouvre, puisque c'est une histoire qui est assez méconnue en dehors de l'Espagne, et en Espagne d'ailleurs aussi, puisqu'on voit dans le documentaire une petite séquence de micro-trottoir dans lequel la question est posée à la jeunesse, qu'est-ce que c'est que le pacte de l'oubli, et personne ne sait de quoi il s'agit.
Alors, rapidement, en deux mots, et pour les auditeurs, donc il s'agit de la loi d'amnistie qui a été votée en 1977.
Deux ans après la mort de Franco.
Voilà, mais qui est le fruit d'un pacte entre les élites franquistes et l'opposition. C'est-à-dire, c'est une loi qui a été négociée. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas tous les articles de la loi d'amnistie, ce sont les articles 2E et 2F, dans lesquels il est question d'effacer les délits commis par les autorités ou les personnes qui détiennent l'autorité et par les fonctionnaires. Et le 19 juillet 2011, le Congrès espagnol avait refusé une proposition de modification de ces deux articles. C'est-à-dire que c'est une loi qui a été votée dans un contexte politique difficile, puisqu'il s'agissait de la transition de la dictature à la démocratie. Donc c'était une loi qui était tout à fait compréhensible dans ce contexte. Ce qui, en revanche, peut sembler beaucoup moins compréhensible, c'est que cette loi n'ait pas été modifiée.
Alors, il faut revenir justement à cette transition démocratique qui a eu lieu. Juan Carlos devient roi et petit à petit, cette loi est votée dans une volonté de faire cette transition démocratique au départ. Et elle permet d'un côté la libération des prisonniers politiques à la mort de Franco. Il faut quand même lui reconnaître ce mérite. Mais de l'autre, elle assure une amnistie.
Alors, une impunité.
Et une impunité totale.
Totale. Quelle que soit la nature des crimes commis, ce qui explique d'un côté le refus de la justice espagnole de l'impossibilité dont elle se targue de pouvoir inculper des personnes qui ont commis jusqu'aux années 70 des délits extrêmement graves.
Jusqu'à des actes de torture.
En effet, des assassinats. Hein. Il ne faut pas oublier qu'en 77, il y a un jeune étudiant de 19 ans qui est mort, qui est abattu par les guérilleros de Cristo Rey. C'est une police paramilitaire d'extrême droite. C'est un policier qui l'abat de sang-froid. Ses parents apprennent sa mort dans le journal télé pendant qu'ils étaient en train de déjeuner et sa famille va porter plainte. Toutes les plaintes ont été archivées, on dit en espagnol, c'est-à-dire elles ont été aidez-moi.
Elles ont été retenues, elles ont été écoutées, elles ont été renvoyées.
Renvoyées, voilà. Aucune plainte n'a été écoutée. difficulté, ce qui explique, et c'est ce que montre le film, que les Espagnols se soient tournés en 2010 vers la justice argentine. Puisque là, il ne s'agit plus de la loi espagnole, mais il s'agit de la justice internationale. Donc ces crimes sont placés dans un autre cadre judiciaire, qui est les crimes contre l'humanité, qui eux sont imprescriptibles. Donc en sortant du cadre espagnol, on peut inculper des gens qui ont commis des délits extrêmement graves.
Alors n'allons pas trop vite, prenons les choses par étapes pour se revenir au silence des autres. Nancy Berthier et ce film. Il est à la fois un film de témoignages, puisque ce sont les victimes qui n'ont pour l'heure pas encore été vraiment entendues, qui prennent la parole, mais c'est aussi un film d'archives. C'est un film qui mélange l'histoire et le déni d'histoire, puisqu'il y a eu ce silence de plomb.
Tout à fait. C'est un film dont la structure documentaire est toutefois assez classique, dans la mesure où cette structure, pour ce qui est de revoir l'histoire passée et tout à fait commune. Donc c'est peut-être pas là que se situe vraiment l'originalité de ce film, parce qu'il y a eu d'autres documentaires qui ont abordé ces questions avec cette mixité, on va dire. Mais c'est probablement, enfin pour moi, ça explique aussi son succès. D'abord le choix des témoins, qui est particulièrement bienvenu, notamment cette figure de Maria Martín que l'on suit jusqu'à sa mort.
Alors que c'est une vieille dame dont la mère a été victime des partisans du franquisme, qui a été assassinée.
Oui. Qui a été assassinée et qui a été conduite, humiliée publiquement sous ses yeux de petite fille. Elle avait alors 6 ans.
On lui a rasé la tête. Peut-être on peut écouter Maria Martín raconter son histoire. C'est le début du documentaire.
J'avais 6 ans quand ils sont venus chercher ma mère.
Gente del pueblo. Por todo de Franco.
Des gens du village. Des partisans de Franco.
La encontraron al día siguiente, a orilla de la carretera.
On l'a trouvé le lendemain, sur le bord de la route.
El pueblo no lo dejó.
Mais on n'a pas pu l'emmener au cimetière. Les habitants s'y sont opposés.
El sitio de la fosa. En la fosa.
C'est là que se trouve le charnier. La fosse commune. Regardez là-bas. Dans les ronces, ils ont jeté leurs habits. Dans les ronciers, ils ont laissé les femmes nues. La vie est tellement injuste. Enfin, pas la vie. C'est nous qui sommes injustes.
Cette histoire de Maria Martín, Nancy Berthier, est extrêmement touchante. Elle recroise une histoire qui est partagée par beaucoup d'Espagnols, familles de victimes, à savoir la question des fosses communes, des victimes qui ont été exécutées et laissées enterrées là, et les familles n'ont pas pu récupérer les corps. Et c'est l'un des grands combats des victimes, aujourd'hui encore.
Tout à fait. Aujourd'hui et depuis bien des années, puisque en réalité la question des fosses communes a été soulevée dès la transition, à travers des articles, notamment dans une revue de grande audience Interview, mais elle n'a pas pris corps, je dirais, dans la société civile. Ce n'est qu'au début des années 2000 que, à travers des associations, cette question a été, on va dire, mise à l'épreuve des faits et d'une volonté d'exhumation. Elle est aujourd'hui d'autant plus, je dirais, accentuée. Le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, depuis l'automne dernier, a décidé d'en faire une priorité, a mis cette question, placé cette question comme l'une des priorités de son gouvernement.
Caroline Hels, l'une des questions qui est abordée, justement celle des fosses communes, c'est aussi représentée à travers des voyages dans les villages, puisque la question du franquisme, elle est aussi géographique. Bien sûr, toute l'Espagne a été touchée par cette dictature-là, mais la question des villages est une question particulièrement sensible. Chaque village a connu des exécutions et chaque village a connu sa fosse et les familles cherchent encore à enterrer leurs morts.
Oui, c'est vrai, je sais pas quoi dire, c'est vrai, vous avez raison.
Cette histoire, elle vous a touché même à titre familial, cette histoire?
Oui, alors ce que j'ai trouvé que montre bien le film, alors vous savez, la plainte argentine, elle avait été déposée en 2010 par un octogénaire, hein, Dario Ribas, qui avait vu enfin la mort de son père dans les années 30. Donc c'est un octogénaire. Dans le film, Maria Martini, Ascensión Mendieta, ce sont aussi des octogénaires. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est qu'il y a bien sûr les octogénaires qui portent ce poids de la mémoire puisqu'ils ont été les témoins directs de tout ça. Et il y a aussi les nouvelles générations. Et ça, c'est très important de le comprendre. On voit dans le film le représentant de la ARMH, l'Association de récupération de la mémoire historique, Emilio Silva, qui avait déterré les restes de son grand-père en 2000, des restes qui avaient été authentifiés par des tests ADN en 2002. Et lui représente une génération à laquelle, évidemment, j'appartiens, c'est la génération des petits-enfants. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est de voir cette vieille dame à qui on fait faire son test ADN. Et elle n'aurait pas pu faire ça sans cette génération des petits-enfants qui a mené toute une bataille médiatique à partir justement du début du XXIe siècle. Cette idée de transmission de mémoire qui passe, et bon, c'est souvent le cas dans les familles, qui traverse en fait la génération 2. Et qui passe à la génération 3.
Et en même temps, il y a eu toute cette période de déni et de silence.
Oui.
Alors pourquoi ce silence? Il y a des militants dans le film, il y a des militants, des gens qui se sont battus contre la dictature et qui pourtant disent eux-mêmes qu'ils ont porté ce silence.
Vous pensez au
à Chato
Oui, aux prisonniers de, aux ex-prisonniers franquistes, l'association La Comuna. Oui. Pour ma part, j'avais rencontré des gens qui avaient été torturés, dont on savait qu'ils avaient été torturés. Et quand les franquistes disent qu'ils ont torturé quelqu'un, c'est qu'ils l'ont vraiment fait. Hein, c'est sûr. Qui disaient qu'il ne leur était rien arrivé. C'est-à-dire, vous comprenez, pour une victime, psychologiquement, c'est extrêmement difficile de se mettre dans ce statut de victime. Les gens qui jouent les victimes, en général, ne sont pas des victimes. Vous voyez, et des gens qui se sont battus et qui ont souffert directement se mettent rarement en position de victime. Donc en fait, le silence, il vient des deux côtés. Il vient de celui qui frappe, il vient de celui qui est victime, qui ne veut pas se voir dans ce rôle, et il vient de tous les gens autour qui n'ont rien dit. C'est-à-dire, les sociologues comparent souvent ce qui se passe à l'Espagne au syndrome des femmes battues dans les familles. C'est-à-dire qu'en fait, le silence, il est total, ça concerne l'ensemble de la société, et c'est extrêmement difficile de sortir de là.
Donc c'est bien le déni.
Oui, alors c'est très intéressant parce que moi, un film qui m'avait beaucoup impacté et qui a impacté beaucoup les gens que je connais, qui traversent ce que j'ai traversé, c'est le film où on voit, c'est un film allemand hein, qui se passe dans les années 60, où on voit Fritz Bauer dans les années 60. Donc les Allemands, ils l'ont fait. Je veux dire, ils l'ont fait. La justice allemande a montré du doigt publiquement des gens qui étaient insérés dans la société et qui avaient fait des choses abominables. Mais ce que ce film, qui est très très bien, Le labyrinthe du silence d'ailleurs il s'appelle, je trouvais que c'est un film remarquable, montre bien, c'est que le procureur lui-même se rend compte que son propre père était dedans. Et le film montre bien à quel point ce genre de mise sur le terrain judiciaire est traumatisant pour tout le monde.
Mais c'est toute la question de la dénazification.
Oui, tout à fait. Mais c'est tout à fait ça. Mais je pense que le film montre bien ce qu'a été la société espagnole parce que tout le monde était dedans.
Il n'y a pas eu ce phénomène-là, justement, de défranquistisation, si le mot pouvait exister.
Il n'y a pas eu de Fritz Bauer. Il n'y a pas eu de Nuremberg non plus. Hein.
Nancy Berthier.
Oui, il faut revenir sur le contexte spécifique politique de la transition pour comprendre ces processus individuels de déni ou de
mais du pacte et du pacte de lui-même, de l'oubli.
C'est-à-dire que en fait, la démocratie en Espagne naît, je dirais, de la dictature. Il n'y a pas de rupture puisque du point de vue institutionnel, ce sont les lois fondamentales du régime franquiste qui vont permettre que, je dirais, de l'intérieur, soit mise en place la démocratie.
Alors, faut expliquer ce phénomène. Ça peut paraître étrange de l'extérieur, parce que c'est Franco qui choisit aussi que Juan Carlos prenne le pouvoir pour sa succession.
Tout à fait, tout à fait. Très tôt, Juan Carlos est choisi pour être le successeur de Franco. Et il va être proclamé roi, d'ailleurs, en vertu de cette loi à la mort de Franco, deux jours après sa mort. Mais le processus institutionnel dont je parle, ce sont donc les lois qui tiennent lieu, on va dire, de constitution du franquisme, qui prévoient la possibilité moyennant, disons, un processus d'unanimité des cortes franquistes, qui prévoient de réformer le régime. Et c'est cela qui va permettre la tenue d'élections démocratiques et donc, à partir de là, la rédaction d'une constitution. Tout cela se fait dans un contexte où il y a un consensus au niveau des élites, gouvernantes, et puis de l'opposition également, pour que la violence de la guerre civile ne revienne pas. Et il va y avoir cette loi d'amnistie, elle se comprend dans ce contexte-là.
Alors ça, c'est très important, Nancy Berthier. La question de la guerre civile, c'était dans ce contexte de volonté de pacification que le pacte d'oubli est au départ voté, sauf que les élites restent en place, y compris les élites du franquisme, et que des gens ayant commis des crimes très graves restent en poste et même continueront à avoir des postes politiques très graves et continuent encore aujourd'hui.
Oui, alors... En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. Et il faut bien voir que cette loi d'amnistie, elle est votée à l'unanimité. Sur 300 et quelques députés, il n'y a que deux votes contre. C'est-à-dire que...
Les élites ont elles-mêmes intérêt à maintenir
mais l'opposition également.
Les élites de l'opposition, au sein même du Parti communiste, le petit communiste de base n'était pas forcément toujours d'accord avec les élites.
Donc... Le Parti communiste a été un maillon fondamental dans la mise en place de la démocratie, en acceptant la monarchie, en acceptant le drapeau monarchique. Et par conséquent, il faut bien comprendre que ce consensus... Alors évidemment, quand on dit consensus, on ne se réfère pas à la totalité. Il y a des extrêmes qui sont à prendre en compte.
Alors, mais en tout cas, il faut aussi expliquer que Franco avait été lui-même soutenu par beaucoup de dirigeants des pays occidentaux de par sa bataille contre le communisme. Donc tout ça était aussi lié à des bonnes et des mauvaises raisons.
Absolument. C'est d'ailleurs dans le film. On le voit avec Eisenhower, on le voit avec
De Gaulle,
etc. Et donc, on va dire pacte d'oubli, c'est pas un pacte formel. Il n'y a pas un moment où on vote. On se met d'accord sur un silence qui va être assumé complètement par les socialistes lorsqu'ils vont arriver au pouvoir en 82 et jusqu'en 96. Felipe González a assez récemment réaffirmé qu'il s'agissait d'une volonté officielle afin de ne pas remettre, on va dire, à l'ordre du jour, les conflits du passé.
Alors là-dessus, justement, on va entendre un autre extrait du silence des autres. Ce qui est difficile à comprendre, c'est ce qui se passe pour ces victimes qui, finalement, ne sont pas entendues pendant toute cette période. Les gens qui sont maintenus à leur poste, justement, Carole Vinals.
Alors, je veux dire, une des clés de tout ça, c'est la criminalisation. C'est-à-dire, Maëlys, légalement, je suis toujours la petite fille d'un terroriste. Et ça, il faut bien le comprendre. Je suis la petite fille d'un officier républicain qui est resté fidèle au gouvernement démocratiquement élu. Ça, c'est moi dans ma tête maintenant. Légalement, il a été condamné pour un soulèvement contre le régime en place. Donc il y a bien eu, de la part du discours franquiste, un retournement. Si vous lisez, Dieu sait que j'en ai lu, des procès-verbaux d'inculpation ces dernières années, les textes retournent la chose. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ont été loyaux au régime en place qui sont accusés de s'être retournés contre les autres. Donc il y a eu un élément qui est très important, c'est-à-dire il y a eu bien sûr les violences physiques. Violences physiques, emprisonnement, torture, privation de nourriture.
Lily El Niño, les tortionnaires.
Tout ça, il y a eu tout ça. Mais il y a eu aussi le côté violence psychologique. C'est-à-dire que ces gens ont été criminalisés. Il y a eu l'intériorisation de tout un discours qui disait qu'ils avaient eu tort et qu'ils avaient mal fait et que c'était eux les responsables. Et là, on est dans la violence psychologique. Ce qui explique que des gens, moi je prends ma grand-mère par exemple, qui était une brave femme, qui aimait absolument son mari, elle n'a rien dit. Parce que le discours a été tellement intériorisé. Et là, on est vraiment dans la violence psychologique. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, dans les années 60, quand on dit qu'on a commencé à déterrer récemment, c'est pas vrai. Je connais des gens qui ont déterré dans les années 60-70 dans des villages. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là? Ils se sont retrouvés en prison, en el cuartelillo, comme ils disent. Des gens qui déterrent, il y en a toujours eu. Mais ils ont toujours été criminalisés par la justice.
Parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation.
Parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation et parce que dans le récit qui a été élaboré, au moins le récit officiel, c'était eux les coupables. Parce que la vraie perversité du franquisme, quelque part, ce n'est pas de tuer des gens, c'est pas de les mettre en prison, c'est pas de les torturer. C'est que la guinda, comme on dit en espagnol, c'est que le pompon, c'est de leur faire croire, et ça ils y sont arrivés, que c'est leur faute. Et ça, c'est extrêmement grave. Et moi, je me souviendrai toujours de mon père. J'ai découvert à sa mort que j'étais la petite fille d'un républicain torturé. Mon père a toujours dit que Franco était un type extraordinaire. Et ça, c'est vraiment très fort d'avoir réussi une chose pareille.
On sent que l'émotion est encore très vive des années après. Et la question...
Une mécanique qui est extrêmement perverse.
Et à travers à la fois la société civile et la classe politique aussi, puisqu'on va voir que des personnalités comme Martine Villa, qui est l'une des personnalités abordées dans le film...
Ministre de l'Intérieur.
Ministre de l'Intérieur va continuer à après être un homme politique Franco, extrêmement voilà. influent. Après la mort de Franco, des années après.
Alors, dans cette période dont je parlais, la période où le Parti Socialiste a été au pouvoir entre 82 et 96, c'est vrai que la volonté de passer sous silence, de ne pas déterrer justement, de ne pas ouvrir les blessures du passé, a obéi à une sorte de... En fait, cette transition, son mythe d'origine, c'est justement ce consensus.
Et c'est une idée du pardon imposé en réalité
non,
par
non,
la...
Non, non, quand je... Enfin, je veux dire, cette loi d'amnistie a été...
Pardonner, faut reconnaître ses torts, hein.
A été voté à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'histoire de l'Espagne où il y a la peur de la violence. Il y a une violence dans la rue, il y a une violence dont les historiens ont parlé assez récemment, qui permet de comprendre cette peur de tous, cette peur des élites de la dictature, cette peur de l'opposition, et cette volonté de construire une démocratie sur... cette espèce de consensus. Alors le consensus, il n'a pas tenu. Il a tenu quand même un certain nombre de.
Il a tenu très très longtemps.
Il a tenu très longtemps et il continue.
Il tient encore.
Je dirais, voilà, il continue à être l'un des éléments qui explique le blocage. Il y a un véritable blocage institutionnel et juridique autour de la question de la reconnaissance des disparus.
Alors à côté de cela, il va y avoir des gens qui habitent toujours à côté de certains tortionnaires, Billy El Niño étant cité à plusieurs reprises puisqu'il était le tortionnaire de Chateau, qui est l'un des personnages témoins du film Silence des
Décoré
autres.
Décoré après la mort de Franco, enfin...
Quatre fois médaillé.
Oui, après la mort de après Franco, la mort de attention, Franco. Hein, c'est...
Et donc cette cohabitation aussi va créer quand même des manifestations du côté des victimes qui vont se constituer peu à peu en association. Mais le déni du côté des politiques reste fort. Je vous propose d'écouter un autre extrait. Et là, on va entendre Rajoy et Felipe VI.
Vous semble-t-il normal qu'en 2016, des milliers d'Espagnols ignorent où reposent leurs grands-parents ?
Je doute de la véracité de vos propos, comme de la capacité du gouvernement à y remédier.
Bien sûr que c'est vrai, monsieur Rajoy.
Beaucoup de gens cherchent des réponses, certes, mais il m'apparaît plus judicieux d'éviter que de telles choses se répètent plutôt que de continuellement remuer le passé.
Bonsoir. L'époque est à la consolidation d'une Espagne solidaire, où rien ne doit réveiller les vieilles rancunes, ni rouvrir les plaies fermées.
Alors, Carovina,
il y a une association qui avait été sur le point de porter plainte contre le discours du roi, la RMH. C'est un discours de 2016, avait menacé de porter plainte. Ils ne l'ont pas fait. Alors, quelque chose qu'il faut aussi signaler, c'est que le taux d'audience des discours du roi Philippe VI, je ne parle pas de sa personne, je n'ai rien contre lui personnellement, est en train de chuter d'année en année, vous comprenez ? Parce que ce genre de discours pose évidemment problème. Parce que quand Rajoy dit qu'il faut regarder vers l'avenir, je suis d'accord. Mais la question de l'impunité, c'est extrêmement grave. Si tu laisses passer des choses pareilles, je veux dire, tu assois une espèce de précédent, quel genre d'exemple tu peux donner ?
D'autant plus que Philippe VI ne bénéficie pas de l'aura qu'avait Juan Carlos, qui lui avait été l'acteur de la transition démocratique. Nancy Berthier, on sait aussi que de leur côté, les associations de victimes ont commencé à se créer avec une association pour la récupération de la mémoire historique. Elles n'ont pas été entendues, elles sont donc allées chercher à l'étranger une aide juridique, puisqu'il y avait une différence entre la loi espagnole et la loi internationale, les lois internationales. D'où l'Argentine. Pourquoi l'Argentine d'ailleurs ?
C'est d'ailleurs une sorte d'ironie de l'histoire. En fait, la transition espagnole, dans les années 90, a été donnée pour modèle dans les pays de l'Est et puis dans les pays d'Amérique latine, sortant de dictature, parce que c'était considéré comme un modèle de transition pacifique qui ne débouchait pas sur un conflit. Sauf que dans ces pays où la transition espagnole a été un modèle. Il y a, fondée sur des lois d'amnistie en particulier, ou de point final, il y a eu des mouvements citoyens qui ont, du coup, fait émerger des commissions de vérité, de réconciliation, et des processus que l'Espagne, en revanche, n'a pas mis en place. Et alors, l'ironie de l'histoire, ou l'intérêt de l'histoire, qu'on voit très bien dans le film, c'est l'effet boomerang. Ce va-et-vient d'histoire et de mémoire, où l'Espagne est un modèle pour l'Amérique latine et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est l'Amérique latine.
Qui a connu aussi des dictatures qui elles-mêmes.
Bref.
Absolument.
Donc, c'est l'Amérique latine qui devient un modèle pour l'Espagne. Et donc, dans ce film, c'est assez exemplaire à travers cette juge argentine, Maria Servini, qui va, d'une certaine manière, être le pendant inversé de Garzón. C'est Garzón qui permet...
Alors, il faut expliquer l'histoire. Le juge Garzón, lui, il a essayé d'enquêter et finalement, tout ça n'a pas abouti en Espagne. Hein. Il y a eu toujours cette barrière du pacte de l'oubli. Ces lois qui n'ont pas été abrogées.
Alors, en fait, le juge Garzón, avant cela, il a été connu pour son action vis-à-vis... par rapport à Pinochet, son action au regard de la justice internationale. Alors, en revanche, lorsque il a voulu enquêter de la même manière sur l'histoire de son propre pays, les choses ne se sont pas si bien passées, dans la mesure où les exactions n'ont pas été reconnues comme un crime de lèse-humanité et où c'est lui-même qui a été poursuivi.
Alors là, on arrive à la complexité juridique, Carole Vinals, qui est un peu au cœur des questionnements autour des exactions du franquisme et des crimes du franquisme, à savoir les lois internationales disent que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, il faut la reconnaissance officielle de ces crimes et on se heurte aussi à la loi intérieure espagnole.
Oui, puisqu'en fait, la juge Servini avait demandé l'extradition.
L'extradition.
Voilà, je pense quand je pense à ces questions-là, je pense en espagnol. Donc, je m'auto-traduis et du coup, des fois, ça donne des choses un petit peu étranges. Excusez-moi. Donc, elle avait demandé l'extradition de 20 responsables et elle n'a rien obtenu, évidemment. Normalement, on a le droit d'extrader des gens, dans des cas comme ça.
Alors, ils sont parus devant les tribunaux espagnols. On leur a posé la question. Ils ont tous refusé, bien sûr. Et ils n'ont pas été extradés. Alors, où est-ce qu'on en est, justement ?
En 2019, on en est toujours là, avec cette date du 18 juillet dernier, par exemple, où la juge Nicolás Sagarcía, il faut dire son nom en antenne quand même, a décidé de classer une plainte déposée par les familles de 33 victimes à Saragosse pour 108 crimes présumés entre 1936 et 1917. Donc, nous en sommes toujours là. Le 18 juillet, bien sûr, c'était avant-hier, et la guerre continue.
Alors face à cette question-là, il y a eu quand même des témoins et des victimes qui ont été entendues par le juge Servigné en Argentine. Il y a eu des victimes qui se sont déplacées, qui sont au cœur de ce film. Je vous propose d'écouter justement Chato, qui a témoigné de ces tortures.
Me posaron las manos a la espalda, empezaron a golpearme la cabeza, agarrada por el pelo.
Ils m'ont menotté, les mains derrière le dos. Ils ont commencé par me frapper le crâne. Me tenant par les cheveux, ils me tapaient contre le bord de la table. Ce que je craignais le plus, c'était de craquer, de parler. Mon moyen pour résister, c'était de m'imaginer une scène où il y avait cette même table, les mêmes tortionnaires en train de me frapper. Mais tout autour étaient assis mes amis, mon père, les gens que je chérissais le plus. Et je ne pouvais pas les décevoir. C'était ma façon à moi de tenir. Mais ces gens s'évaporaient quand je prenais conscience que j'étais nu, qu'on me donnait des coups sur les fesses, sur la plante des pieds et sur les parties génitales. Je me rappelle m'être dit, tu ne pourras plus jamais baiser. J'avais 22 ans. Et je venais de perdre ma virginité. Je n'étais ni une personne, ni même un animal. Je n'étais qu'une chose. J'avais 22 ans, j'étais terrifié, mais déterminé à tenir bon, grâce à la colère. Je vous le dis en toute honnêteté, ce n'était pas par conviction politique, c'était la colère. Car j'étais un être humain.
Caroline Elson entend l'horreur de ces tortures pratiquées à la DSG, qui est mise en avant comme un des lieux particuliers du franquisme, qui était le siège de la police notamment.
Oui, alors vous savez, tous les jeudis à 20h, il y a la Coordinadora contra la Impunidad y los Crímenes del Franquismo, la coordinatrice contre l'impunité des crimes du franquisme, qui se réunit et qui fait le tour de la Puerta del Sol, et qui lève la main et montre le poing en regardant, justement, parce que c'est ce très bel immeuble magnifique, hein. Tous les touristes passent devant, mais ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'il n'y a pas une fichue plaque, hein, faut le dire aussi. Et ils disent, la justicia vendrá de Argentina. La justice viendra d'Argentine. Parce que tous ces gens qui parlent.
C'était le lieu, le siège de la torture.
L'horrible endroit où on torturait les gens, où les gens disparaissaient complètement. Ce qu'il faut quand même souligner, que montre le film sans le dire explicitement, c'est que les deux mamies là, qui ont 88 ans, pour dire ça, elles ont dû faire 12 000 kilomètres.
Ouais, elles sont venues, voilà. Elles sont parties.
12 000 kilomètres, ce sont des gens qui sont d'une catégorie sociale, on le voit dans le film, extrêmement modeste. Ils l'ont fait à leurs frais, parce que l'État espagnol, évidemment, n'allait pas... Donc, pour dire des choses aussi horribles et ne pas pouvoir témoigner devant un tribunal de justice espagnol, être obligé de se payer un vol d'avion quand tu as presque 90 ans, et de faire 12 000 kilomètres, vous comprenez, en soi, je veux dire, c'est une aberration.
Nancy Berthier, on va voir que cette procédure va prendre énormément de temps. D'ailleurs, elle n'a toujours pas complètement abouti. Il va y avoir des pressions du gouvernement espagnol dans les relations entre l'Argentine et l'Espagne qui vont être justement menacées. Et il va y avoir de l'autre côté, du côté des associations, la recherche d'un élan populaire. Ils vont aller voir les villages, les mairies. Et on retrouve cette échelle du village qui va permettre une mobilisation populaire.
Oui, et c'est l'un des intérêts aussi de ce film, de faire, c'est une sorte de road movie également, qui nous permet d'aller de village en village. Le village, c'est également l'espace où la violence a été visible et est encore visible. C'est un espace délimité, à la différence des grandes villes, et où il va pouvoir y avoir une espèce de théâtre de la mémoire au moment des exhumations. Ces exhumations, depuis les années 2000, les images qu'elles ont produites, qui sont bien souvent des images de villages, ont été très mobilisatrices, je dirais, parce que ça...
Avec les objets qui permettent d'identifier, avec les tests ADN qui permettent aux familles de récupérer les corps de leurs morts.
Et puis surtout, le rapport, enfin, on le voit très bien dans la séquence quasiment finale du film, au moment de l'exhumation, c'est-à-dire le moment où le corps... qui était dans la fosse commune réapparaît. Il y a une émotion extrêmement extrêmement forte qui est bien
retranscrite dans le film
et bien avant dans d'autres films. Et ça a permis également, on va dire, la montée de la mobilisation autour de ces questions.
Alors, il y a aussi une force symbolique. Il y a un autre combat qui est mené en parallèle. C'est celui des plaques, des noms de rues qui sont encore à l'effigie du franquisme pour certaines d'entre elles, en tout cas très nombreuses, ou de personnages ayant eu une grande importance à l'époque franquiste. Alors, il y a cette volonté, justement, de changer ces plaques de la part des victimes qui se mobilisent.
Oui, alors moi je vais publier un livre à la rentrée en octobre aux éditions Atlante sur ces questions-là. Alors la question des plaques, je l'ai suivie de près, hein, puisque j'y ai même participé. En fait, les plaques, ils ne vont pas les retirer au bout du compte. Hein. Ils avaient organisé une commission pour étudier le changement des rues de Madrid, parce que, comme le film le montre, c'est quand même aberrant qu'il y ait des rues pareilles. C'est quand même monstrueux. Il faut imaginer, c'est comme si en Allemagne, vous aviez l'avenue Hitler, l'avenue Goebbels, l'avenue en bas à bas les Juifs. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire dans un pays démocratique? Ce qui se passe, c'est que la commission qui avait été organisée pour étudier cette question des plaques, elle a été défaite, déconstruite. Enfin, j'ai vraiment du mal à parler de ces questions-là en français, mais je veux dire dissoute. Voilà, je cherchais le mot dissoute par la mairie de Madrid au bout du compte. Et vous savez que depuis cette année-là, en juin, c'est la droite qui a gagné les élections et désormais, ce n'est plus Manuela Carmena, c'est Almeida qui est aux commandes à Madrid. Et les plaques, elles vont rester.
Donc la ce que montrent les Caudillo, films,
toutes ces choses-là vont rester. Les plaques de Madrid vont rester.
Alors, il y a une autre grande question.
Symboliquement, c'est important, ça. Hein,
autour des symboles, bien sûr. On voit que c'est l'un des combats importants des victimes. Il y a un autre débat dans ce film. Il y a une autre question qui est ouverte parmi les plaies de l'Espagne. Il y a cette question des enfants, des bébés volés. Alors, racontez-nous de quoi il s'agit dans Nancy Bercier.
C'est une pratique qui date de la guerre civile et qui s'est poursuivie ensuite jusqu'à la transition.
Bien après, jusqu'aux années 80.
Puisque le cas qui est présent dans le film, c'est 81. Pour protéger les créatures, créatures, voilà. Les volées.
Des jeunes filles qu'on aurait fait accoucher dans des cliniques, dont on aurait pris les enfants, qui ne les auraient jamais revus,
annoncés
comme morts.
Ils avaient même un bébé dans un congélateur, hein, vous voyez, pour montrer, voilà, il est mort ton bébé. Donc ils gardaient le même bébé qu'ils montraient à tout le monde. C'est, je veux dire, quand on lit des ouvrages dessus, c'est quand même particulièrement prenant. Et d'autant plus que ça marchait tout ça avec des gynécologues, avec des médecins, des infirmières, des bonnes sœurs, des assistantes sociales. Il y avait des avocats, il y avait toute une
administration. Liée au régime franquiste.
Et après, parce qu'en fait, au départ, c'était quelque chose d'idéologique. Vous savez, le gène gauchiste est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça se transmet, ce sont des malades mentaux.
C'était le discours, oui.
Donc c'était le discours de départ. Mais ce discours de départ, évidemment, dans les années 60-70, il était complètement anachronique. Donc, c'est devenu une des entreprises les plus juteuses qui soit.
Donc, l'idée, ça a été de quoi? De
vendre,
confier des enfants,
vendre des bébés. C'était de la vente de bébés pour gagner de l'argent.
Et alors, en quoi est-ce que cette question est intriquée avec celle du franquisme, puisque ça a continué après? Expliquez-nous, Carole Vinals.
Eh bien, c'est qu'ils avaient pris... Vous comprenez le problème de l'impunité que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand les gens prennent de mauvaises habitudes, et tu leur fais pas comprendre que c'est mal ce qu'ils sont en train de faire. Comment vous voulez qu'ils arrêtent? Enfin, je veux dire, c'est tout bête. Ça, n'importe qui comprend ça. Ils ont continué. Pourquoi donc allaient-ils arrêter? Pourquoi vont-ils arrêter? Donc, ils continuent.
Nancy Bercier.
Alors, en fait, c'est vrai que associer ces deux combats, ça peut paraître un peu étrange, sauf effectivement si on le considère depuis la question de l'impunité. Mais c'est la jeunesse du film, en fait, cette cinéaste a pris conscience de l'importance de ces questions mémorielles lorsque elle a été enceinte, c'était en 2010, et que c'était l'époque où le problème des enfants volés était sur le devant de la scène médiatique, et elle-même est enceinte, a été vraiment touchée et mobilisée, et en travaillant la question, parce qu'elle voulait faire un film sur ce sujet-là, elle s'est rendue compte que c'était la partie émergée d'un énorme iceberg, et donc le film parle plutôt
englobe
de l'iceberg. Englobe toutes ces questions, puisque dans son processus de recherche, elle a réussi, elle a eu aussi cette chance de tomber sur l'affaire, la juge Servigny. Et donc, elle a pu avoir une narration qui parte de 2010 et qui aille jusqu'en 2016. Et donc, ce suspense du film qui fait qu'il est particulièrement émouvant et facile à suivre vient de cela.
Et du récit de toute cette histoire comme une histoire globale. On va écouter le juge Servigny, puisqu'on l'a évoqué plusieurs fois, la juge argentine qui a entre les mains cette histoire justement qui a été menée devant ces tribunaux.
La loi d'amnistie en Espagne a eu pour effet d'empêcher la justice espagnole et les juges d'enquêter. Mais les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Aucune amnistie ne peut les dissimuler ni empêcher d'ouvrir une enquête.
Imaginez avoir en face de vous une personne de 80 ans qui vous dit « Je veux parler à la juge avant de mourir ». Il y a énormément de personnes qui nous demandent d'apporter leur témoignage par vidéoconférence.
Nous pouvons disposer d'éléments de preuve suffisants pour avancer dans la procédure.
Il y a beaucoup de choses à lire et ce qu'il nous faut, ce sont des témoins. Il nous faut des témoins.
Carole Vinal, ce que fait entendre ce film, c'est aussi la parole de cette génération qui arrive à la fin de sa vie, de personnes âgées qui ont été les premières victimes, en tout cas les dernières vivantes du franquisme, qui portent cette histoire qui est aussi celle de leurs parents, puisqu'il y a eu ces décennies de dictature, et qui veulent se faire entendre.
Et qui l'ont transmis à la génération des petits-enfants. Alors, en écoutant ce témoignage, je repensais, il y a deux ans, j'étais sur la place Jacinto Benavente devant le ministère de l'Intérieur. Et nous manifestions parce que l'un de ces bébés volés, dont tout le monde savait que c'était un bébé volé, la religieuse l'avait même reconnu. Elle témoignait en Argentine et elle encourait une amende extrêmement lourde qu'elle n'était pas en mesure de payer. Donc, nous nous étions rassemblés pour protester. Une religieuse était sortie, elle n'était pas habillée en religieuse, mais elle ressemblait à une religieuse. Et elle nous avait dit, je vais être polie, je suis sur France Culture, donc elle nous avait dit, vous êtes des fouteurs de merde. Et je reste très polie. Et alors, une des dames qui était à côté de moi, qui avait la photo de sa fille, qu'elle recherchait depuis 20 ans, m'avait pris le bras et m'avait dit, Carole, est-ce que tu crois que cette femme-là croit en Dieu ?
Cette question des générations, Nancy Berthier, elle était importante aussi. Le cinéma a pu immortaliser ces paroles-là, dont on ne sait si elles vont être entendues toutes avant de mourir devant le tribunal. Le film a permis aussi de faire témoigner des gens qui n'ont pas encore pu aller en Argentine. Les vidéoconférences ont été parfois annulées.
Absolument. C'est l'un des grands intérêts de ce film. Et le succès qu'il a obtenu est un amplificateur. C'est justement de rendre visible cette parole.
Merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui. Je rappelle que le film documentaire Le silence des autres de Robert Bahar et Almudena Caracedo sort en DVD chez Blackout ce mois-ci. Quant à vous, Carole Vinals, un ouvrage est à paraître, Un modèle espagnol en octobre aux éditions Atland, et il évoquera les questions mémorielles après la crise de 2008 et les nouvelles politiques de mémoire.
Thank you.
Et une petite pause musicale avec l'andante du concerto italien en fa majeur de Bach interprété par Marie-Claire Leguet, la pianiste. Marie-Claire Leguet sera justement en concert ce soir au Festival international de piano de la Roque d'Anthéon. Et le 1er août, aux heures musicales, duo Anjou avec François Salk au violoncelle. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez. C'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité l'auteur de bande dessinée, Laurel. La semaine dédie tôt. Des histoires relatant les difficultés contraceptives des latins, des lapins, des araignées en pagaille. Les planches de Laurel sautent d'un monde à l'autre, un imaginaire qui prend des formes humaines et animales et nous emmène dans sa poésie du quotidien. Laurel est aujourd'hui parmi nous pour le portrait de la Grande Table d'été. Bonjour Laurel.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, ça a commencé par une histoire de blog, vous avez été une des pionnières d'ailleurs, hein, dans la bande dessinée, à faire ce blog en ligne et gratuit, qui s'appelait au départ « Un crayon dans le cœur ».
Oui, c'est vrai, c'était en 2003, donc en fait, j'ai commencé ma vie active au moment où Internet s'est démocratisé, et où on avait accès à des forums de BD, où on pouvait raconter sa vie en ligne, et ça c'était vraiment hyper nouveau. Et comme j'ai toujours tenu des journaux intimes, bah, j'ai continué à le faire, mais en montrant sur Internet via des blogs, en fait. Et je dois parler des débuts.
Avec vos dessins, avec votre... Vous parlez de...
Oui, en bande dessinée, oui.
Vous parlez de journal intime, c'est effectivement un journal un peu à ciel ouvert. C'est-à-dire que on parle aussi bien du quotidien que des personnes qui vous entourent. Votre fille, le chat, tout le monde y passe comme des personnages du réel. Qui apparaissent d'un coup dans le quotidien de la bande dessinée.
Oui, voilà, c'était en fait je racontais ma vie simplement, mais comme beaucoup d'autres blogueurs. Et j'ai eu la chance de me faire repérer entre guillemets par le magazine Spirou, parce qu'à l'époque, en fait, il y avait peu de blogs BD, et donc dans le milieu de l'édition, les gens les lisaient. Et j'ai été repérée par le rédacteur en chef de Spirou, qui m'a confié du coup mes premiers boulots dans la presse, et ce qui m'a permis ensuite de signer pour des livres. Donc ça fait depuis 2004.
Thierry Tinlot
Oui, absolument.
Et à ce moment-là, vous avez commencé justement à raconter des petites histoires du quotidien. Alors tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc, avec un dessin. Comment vous le qualifieriez votre dessin? Un dessin un peu rond.
Je dirais très franco-belge. Je pense que niveau inspiration, je dirais Franquin et peut-être Larsenet. Et aujourd'hui, Riyad Satouf ou Pénélope Bagieu. Je dirais que ces personnes-là sont celles qui m'ont le plus influencée dans mon trait.
Aujourd'hui, Riyad Satouf, ça veut dire que votre dessin a évolué, Laurel?
Ça veut dire qu'il fait partie de mes inspirations et que quand je lis ses BD, ça me donne envie de dessiner. Mais oui, bien sûr, mon trait a évolué en 15 ans, beaucoup, ouais.
Vous êtes autodidacte?
Oui, c'est vrai, j'ai fait aucune étude, j'ai juste le bac. Donc après, comme j'ai eu la chance de pouvoir... avoir des boulots dans la presse assez vite, en fait. J'ai fait un peu caissière, vendeuse, enfin des petits boulots, en fait. Et après, j'ai eu la chance extrême de pouvoir publier des bouquins assez rapidement, ouais.
Alors, vous parliez...
Des livres jeunesse, des BD. Pardon.
Vous parlez de vos influences. Y a parfois des petits lapins qui apparaissent. Alors, il y a un dessin très rigolo dans la galerie dans laquelle vous êtes exposé en ce moment. Il y a une histoire de lapins qui ont des problèmes de contraception. Une histoire de capote de lapin et qui donne beaucoup, beaucoup de lapins, du coup. Et on pense tout de suite à Trondheim et à son Lapinot.
Ah ouais, c'est clair que Trondheim, c'est aussi une de mes influences. Mais de toute façon, toutes ces BD... franco-belge, j'adore, j'ai grandi avec, quoi, tous les classiques en fait, comme tout le monde. Et c'est une passion depuis toujours. D'ailleurs, mon prénom c'est Laureline, comme la bande dessinée Valérian. Et j'ai appelé mon fils Valérian. C'est vraiment la BD fait partie de mon univers depuis toujours, ouais, c'est clair, mon quotidien.
On va justement l'écouter. Trondheim, c'était dans les nuits de France Culture le 27 janvier dernier.
Mm-hmm. Ce personnage-là que j'ai créé. Par hasard, il est resté avec moi parce que j'ai un système de dessin qui est très, on va dire, minimaliste et animalier. Parce que comme je ne sais pas bien dessiner, je ne vais pas m'aventurer à faire du réalisme, je vais, même du semi-réalisme, j'en serais tout à fait incapable. Donc j'ai un système de dessin un peu comme, on va dire, comme Disney, mais encore plus simple. Et plus pour adultes, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est pas, j'aime bien parler aux enfants, mais j'aime bien les deux niveaux de lecture, adultes et enfants. Et donc je fais des histoires qui, pendant très longtemps, m'ont été refusées par tous les éditeurs. Et j'étais très embêté, et j'ai fini par réussir à convaincre Dargo de publier le premier Lapineau. Donc c'était Lapineau, mais c'était un western cette fois-ci. Et après je me suis dit, mais en fait c'est très compliqué quand on a un système minimaliste de créer des nouveaux personnages, parce que comme je fais un point pour un œil, un autre point pour l'autre œil, parfois pas de nez, un trait pour la bouche, un rond, un ovale pour la forme de la tête, les oreilles vont être un peu rondes, un peu triangulaires, mais c'est un peu tout quoi, je suis limité. Donc quand j'ai un personnage iconique qui est assez fort, marqué, qui me plaît bien, bah, j'essaie de le garder, donc j'avais plein d'aventures à faire. Je me dis, bah, prenons le personnage de Lapineau, il est bien, il est sympa. Donc Lapineau s'est retrouvé en KPDP, en western, en comédie romantique du 19e en Angleterre, et dans le quotidien aussi. Et puis ça me posait pas de problème, je me disais, bon, c'est un acteur, on fait comme ça.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire, Trondheim? Cette idée, un personnage passe-partout. Alors, un animal, en l'occurrence, un lapin. Vous aussi, vous dessinez beaucoup d'animaux. Ce ne sont généralement pas les narrateurs.
C'est vrai que j'ai fait une bande dessinée qui s'appelait Cerise. Et c'est vrai que j'adore dessiner les animaux et leur faire des petites bouilles un peu sympas et des réflexions souvent décalées. Et du coup, j'avais raconté l'histoire d'une petite fille qui sait parler aux animaux et c'était des gags en fait. Ouais.
Notamment les araignées. Il y a beaucoup d'araignées chez vous. Bon. Qu'est-ce que ça représente, ces araignées?
Avant, je les aimais pas trop. Mais enfin, j'en avais peur, hein, comme beaucoup de monde. Mais maintenant que je vis à la campagne, elles me font plus peur. Je les prends dans les mains pour les mettre dehors. Enfin, c'est plus du tout un problème. Mais ouais, j'aime bien les araignées. Mais dans mon univers, il y a plutôt des chats parce que j'ai un chat. Et comme beaucoup de monde. Enfin, les chats sont hyper inspirants comme personnages. Et en fait, ça me permet de, quand je mets des animaux à côté de mes personnages humains, de leur faire dire des choses que peut-être les personnages pensent. Mais avec toujours un petit temps de décalage où ça permet aussi, comme ce sont des animaux qui parlent et que donc c'est imaginaire, et ben ça permet de faire un dialogue et de faire avancer l'action. Par exemple, le personnage, au lieu de se parler à lui-même, il va parler à l'animal, il va y avoir une conversation. Et d'un point de vue mise en scène, faire parler les animaux, c'est vachement utile en fait.
C'est une bascule narrative vers l'imaginaire?
Ouais, carrément, c'est un peu un petit truc, quoi, une petite astuce pour faire avancer l'histoire, parfois, plutôt que ce soit, enfin, pour pas que ce soit trop répétitif. Alors, dans mes BD, enfin voilà, par exemple, la dernière BD que j'avais faite, c'était, ça racontait l'histoire d'une entreprise de jeux vidéo, et donc il y avait beaucoup de parlottes. Et c'est vrai que mettre des animaux en scène, ça permet de faire avancer l'action un peu plus vite, quoi.
Alors justement, dans ces animaux, il y a aussi une sorte de partie fantastique qui intervient. Les enfants et les animaux sont parfois très proches dans leur dialogue. Je pense à cette petite fille qui parle à l'araignée. Et l'araignée, en fait, elle se prend pour Jules César. Donc il y a aussi cette bascule vers un imaginaire un peu fantastique.
C'est vrai. C'était juste un gag, mais oui. C'était...
Vous avez raconté dans vos bandes dessinées aussi votre voyage aux États-Unis.
Ouais,
vous êtes partie vivre aux États-Unis à cause d'une start-up que vous avez cofondée.
Oui, voilà, on a monté une boîte de jeux vidéo en fait à plusieurs, et on est parti vivre en Californie parce que c'était plus intéressant d'être sur place en fait pour avoir des rendez-vous avec Apple, Google et tous ceux qui comptent en fait dans la distribution mobile. Et voilà, c'était un rêve absolu de vivre là-bas, de déménager, de tout quitter en fait, parce qu'on a vraiment, on a quitté l'appart, on a pris toutes nos affaires, mis dans un container avec notre fille, notre chat, et on est parti là-bas en fait. Et on a, dans le but de vraiment vivre l'aventure à fond et aller jusqu'au bout pour l'entreprise, enfin pour la boîte qu'on avait faite.
Et le rêve américain n'a pas été toujours si facile que ça, Laurel, à en croire votre blog.
Bah, ça partait super bien et on avait vraiment tout entre nos mains pour que ça marche bien. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça je le raconte sur
Il y a Comme Convenu et Californide.
Ouais.
Dans lesquels vous racontez
Comme Convenu.com par exemple, on peut lire toute la BD, tout est gratuit en ligne.
Ça, c'est vrai que c'est vraiment... Enfin, les gens sont contents en fait, de la lire gratuitement. Et puis moi, je ne l'ai pas faite pour gagner des sous dessus, en fait. Je voulais juste... En fait, j'avais besoin que ça sorte parce que c'était super douloureux comme histoire. Et enfin, je l'avais faite pour plusieurs raisons. Ouais, déjà, c'était une catharsis, une sorte de catharsis, parce que c'était vraiment important de la dessiner et tout ça. Et aussi, je voulais que ce soit accessible pour tout le monde. Pour avoir, pour prévenir, enfin pas prévenir, c'est un peu présomptueux, mais disons que j'aurais bien aimé, moi, lire un retour d'expérience comme ça, de commencer une entreprise, de partir dans un pays étranger, parce que bah, ça s'est mal passé, entre guillemets, enfin on a été utilisé par nos associés qui nous ont un peu coupé une fois sur place et on était à leur merci. Ils pouvaient nous virer, ils avaient le pouvoir de faire ça, donc on aurait tout perdu. Alors, enfin, petit à petit, ça s'est mué. Enfin, on devait leur obéir, quoi qu'il en coûte. Et c'était une expérience vraiment intéressante et enrichissante, mais vraiment difficile. Et du coup, je pense que c'est bien pour des ados ou des jeunes qui veulent, enfin, qui commencent la vie active, en fait, de lire. Et j'ai eu plusieurs retours depuis, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de lecteurs. J'ai eu plusieurs retours de personnes qui ont dit « Ah ouais, ça m'a aidé. » Enfin, voilà.
Dans la bande dessinée, ça a été justement pour vous l'occasion d'aborder des questions qui sont peu abordées en bande dessinée, à savoir des questions même économiques. Vous vous retrouvez en colocation avec un garagiste qui est aussi chauffeur Uber, Juan. Il y a des réalités aussi de la vie américaine, californienne, d'expatriés.
Ah ouais, non mais d'expatriés, oui, un peu, c'est vrai.
De l'entreprise aussi.
Ouais, de l'entreprise.
Du monde de l'entreprise.
Ouais, mais j'ai essayé de faire ça quand même, que ce soit pas pénible ou ennuyeux, en fait. Parce que c'est vrai, on peut dire une BD sur une entreprise, mais c'est plutôt une start-up, donc on est peu nombreux. Mais c'est vrai que, par contre, la vie en Californie, c'est vraiment super différent économiquement, le travail, le logement, les magasins, enfin, la santé, bien sûr.
Il y a toute une réflexion sur le système de santé américain. Alors, vous partez de votre histoire personnelle. Et finalement, il y a toujours des élargissements de réflexion. Des élargissements, d'ailleurs, souvent un peu poétiques. Ça part de cette grossesse que vous vivez là-bas.
Ça, c'est après.
Et autour de la question de la grossesse, se posent des questions sur l'âme humaine. Et finalement, si la fécondation avait lieu 3 minutes plus tard, ce ne serait pas le même enfant. Peut-être un génie, peut-être un psychopathe.
J'ai pas vraiment dit ça comme ça, mais c'est vrai que c'est parti en cacahuète sur Internet. J'avais juste dit, ce sera une personne totalement différente, peut-être si on fait, une heure avant, une heure après.
Psychopathe, c'est des citations, hein.
Ouais. Mais c'était. Mais du coup, ouais, c'est vrai que sur Internet, après, on m'a dit que je faisais de l'eugénisme. Enfin, ça n'avait aucun sens. Bah après, Twitter, hein, c'est quand même un peu spécial.
Et à partir de là, vous avez mené une sorte de réflexion sur le système de santé américain, une comparaison avec ce qui se passait en France.
Ah bah ouais, franchement, c'est vraiment un vrai problème là-bas. Si des personnes n'ont pas les moyens de soigner une jambe cassée ou même d'accoucher dans un hôpital, ils se retrouvent soit avec des dettes, soit à se réparer eux-mêmes. Enfin, c'est un vrai problème, ouais.
Alors, c'est une manière aussi de faire du quotidien un objet de fiction. Comment est-ce que vous repérez les petites scènes ordinaires qui vont nourrir le blog? Puisque ce blog, vous le tenez tous les jours, vous dessinez tous les jours. Vous êtes aussi sur Twitter.
Et Facebook.
Laurel, alors comment est-ce que vous faites du quotidien un matériau, puisqu'il n'y a peut-être pas toujours matière au jour le jour à dessiner?
Alors premièrement, déjà j'y pense un peu en fond tout le temps, donc un peu en continu. J'essaye d'être attentive, mais comme beaucoup de gens qui travaillent dans le scénario ou la création ou les romans, d'être un peu attentive à ce qui se passe en se disant « Ah tiens, ça pourrait faire une petite scène un peu intéressante ». Et aussi, j'écris avec du recul parce que je raconte ma vie, donc tout est vrai, mais je la raconte avec un peu de retard. Par exemple, là, je raconte la grossesse que j'ai vécue aux États-Unis, mais c'était en 2016. Donc, du coup, j'ai pris des notes, j'ai eu le temps de les digérer, et j'ai eu le temps ensuite de les retravailler, etc. Là, par exemple, dans le train pour venir ici, j'étais en train d'écrire les pages du Bataclan, en fait, parce que je vais en parler. Mais voilà, c'est avec 4 ans de décalage, enfin 3 ans et demi.
Donc c'est peut-être la raison pour laquelle vous souhaitez avoir cet accès à un blog avec votre temporalité à vous, une temporalité créative, Laurel, plutôt que de travailler par exemple pour des magazines ou des journaux?
Ah oui, c'est un métier complètement différent. Mais moi j'ai toujours aimé être vraiment super libre, Donc c'est pour ça que j'ai choisi un métier aussi où j'ai pas de patron et j'ai pas d'emploi du temps. Et c'est vrai qu'il y a, ouais, travailler dans une boîte. En même temps, je travaille dans une boîte. Je travaille pour Docker, qui est une boîte d'informatique. Mais ils me passent des commandes de dessin que je leur envoie. Donc c'est pas, j'ai pas un patron sur le dos, quoi. Mais oui, la liberté, c'est super important, hein, de toute façon, en général. Pardon, c'était quoi?
Mais vous avez publié plusieurs albums.
Ouais. Oui, absolument.
Il y a eu Marche ou rêve, il y a eu Les enquêtes de Violette, il y a eu tout ce travail de bande dessinée en ligne. À partir du moment où elle est gratuite, donc vous travaillez à côté. Laurel, vous n'avez pas eu la volonté de vivre de ce blog?
Au départ, non, j'avais pas la volonté. Ensuite, dans les faits, comme j'ai publié comme convenu, sur ma BD, et que donc l'histoire de cette boîte qui a vraiment un début, un milieu, une fin, et qui fait 500 pages, et qui a eu de plus en plus de monde qui la suivait, en fait des dizaines de milliers de personnes. Et après, j'ai fait un Ulule.
Vous avez fait des campagnes de financement
participatif.
Ouais. Participatif.
Et ça a cartonné, et finalement, j'en ai vendu 10 000 exemplaires, ce qui est énorme, et sans passer par un éditeur. Pardon, c'était quoi?
Et donc du coup, ce blog gratuit, ouais, il venait quand même à une professionnalisation.
Carrément. Parce qu'aujourd'hui, mais c'est vraiment formidable d'être né à notre époque et aujourd'hui de faire auteur de BD, tout ça, parce qu'il y a des plateformes qui n'existaient pas avant et qui permettent de rester en contact avec les gens. C'est vraiment inouï la chance qu'on a d'être aujourd'hui auteur. Parce que déjà Ulule pour financer les livres et faire vraiment un gros coup. Mais sinon, il y a des plateformes. Par exemple, je suis sur Tipeee. Je ne sais pas si vous connaissez T-I-P-E-E-E. Et en fait, ça permet aux gens de laisser un pourboire tous les mois ou quand ils veulent, ou juste une fois, en fait. Et d'avoir quelque chose en retour, en fait, des news, les planches en avant-première. Moi, je propose des trucs un peu plus élevés aussi pour selon la somme que les gens laissent. Et ça permet aux gens, en fait, c'est du mécénat en ligne. Et ça permet de garder le contact avec sa communauté et d'être aidé et de dégager un revenu, en fait, mensuel qui permette de voir venir. Et non, c'est vraiment chouette, ça.
Comment vous les avez menées, ces campagnes, justement, de financement pour vos albums, puisque donc plusieurs épisodes ont été, enfin, même des tomes entiers ont été publiés grâce à ce système-là. Donc, on a fait du blog un format bande dessinée, ce qui est à la base assez différent, puisque ce sont des planches séparées, quotidiennes, qui étaient publiées. Comment est-ce que vous les avez menées, ces campagnes?
En fait, au départ, j'ai commencé comme convenu, en me disant que ça allait être sur une application mobile et que ça allait être lisible sur le téléphone et sur iPad. Du coup, j'ai fait 4 cases par page, format téléphone, et quand on en met 4, ça fait une page lisible sur iPad ou tablette. Et donc, dès le départ, j'avais prévu un format spécial qui soit lisible et surtout uniforme. Et après, quand je suis arrivée... pratiquement à la moitié du livre, c'est vrai que je me suis dit, ça pourrait faire un livre papier. Et en fait, des éditeurs sont venus vers moi, des gros éditeurs, et m'ont proposé de le publier. Une fois que c'était en ligne, une fois que j'avais déjà les lecteurs et que j'avais fait tout le travail, entre guillemets, mais même si ça reste un plaisir, de créer la communauté, en fait. Et ils m'ont proposé des prix mais tellement ridicules que j'étais vexée, quoi. Enfin, par exemple, pour 3 ans de travail, pour ce qui représente 3 ans de boulot, la meilleure offre qu'on m'ait faite de la part d'un gros éditeur, c'était 8000 euros. Donc ça représentait 2 euros par page, enfin c'était n'importe quoi.
Donc vous avez décidé de faire votre propre modèle économique d'auteur?
J'ai décidé de tenter pour le tout, et je me suis dit que j'allais le publier moi-même en passant par Ulule, et que même si j'y mettais de ma poche, je préférerais y mettre de ma poche que d'être payé 8000 euros pour 500 pages. Enfin, c'est absolument ridicule. Et ça a cartonné, et j'ai levé 295 000 pour le tome 1 et 430 000 pour le tome 2, enfin, c'était n'importe quoi.
C'est incomparable, en tout cas.
C'est incomparable et c'est vraiment hallucinant. Même s'il y a évidemment une grosse partie qui est partie dans la production, la distribution, évidemment, ça, c'est, Mais j'ai gagné plus qu'avec un éditeur classique. Et je possède tous les droits. Je peux faire ce que je veux de cette BD. Je peux la traduire. Je peux la mettre en ligne. Enfin, la garder gratuite sur Internet. Parce que le but, c'est vraiment que des gens la lisent. Je fais pas ça pour l'argent du tout. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a marché. Mais mon but, c'était vraiment que des gens lisent mon histoire et que ça puisse leur être utile.
Alors, ça permet aussi les échanges, ça sera gratuit. Ça permet aussi les retours d'être sur un blog, puisque finalement vous avez beaucoup de contacts.
Ouais, c'est super, c'est vraiment enrichissant. Il y a des lecteurs qui sont devenus des copains, enfin c'est vraiment super. Parce que ça fait très longtemps que je suis sur Internet à raconter ma vie, et donc il y a des gens qui me lisent depuis qu'ils sont ados, c'est super. C'est vraiment une chance.
Alors aujourd'hui, votre travail, il fait l'objet d'une première exposition à Liberty Brain Gallery à Paris. Vous avez choisi une cinquantaine de dessins, parfois assez anciens.
Oh là, mais que anciens. C'était, oui, je crois que le but, c'était de montrer en fait les carnets de mes débuts, pour que les gens qui lisent depuis longtemps voient des originaux de comment je dessinais avant, en fait. Donc c'est ça le thème.
Alors, donnez-nous quelques aperçus. J'abordais la semaine d'édito, par exemple. Qu'est-ce que c'est, édito,
en deux mots. Ça, c'était...
Édi étant un prénom.
Ouais, mais en fait, c'était les éditos dans le magazine Spirou. Et parce que, bah, voilà, je fais des boulots de commande quand même pour vivre du dessin. Et il y a plusieurs... la personne qui a choisi, donc Renan, qui a choisi les dessins qui... En fait, il a pris trois cartons de mes carnets et il a tout épluché. Il a dit, on prend ça, 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 et... Et voilà, il a pris quelques... Dans le lot, il y a des dessins de commande, il y a des boulots, il y a des dessins que j'ai fait pour le blog ou des vraies planches de BD. Non, c'est une expo qui est très, très, très... Enfin, j'allais dire disparate, mais plutôt variée.
Éclectique.
Ouais, éclectique, pardon. Et ouais, c'est... Non, c'est intéressant. Et puis, les dessins sont à vendre et franchement, c'est abordable. Parce que je lui ai dit, mets le prix que tu veux, je m'en fiche vraiment. Donc, du coup, c'est cool. C'est vrai que les gens qui, si vous voulez aller les voir, l'expo, c'est sympa.
Il y a justement ce que disait Trondheim, il parlait de son dessin et des libertés que ça lui permettait d'avoir une sorte de personnage un peu passe-partout et un dessin très simple. Alors vous, qu'est-ce que vous diriez de votre dessin? Ce dessin un peu rond, comment vous le caractériseriez justement? Est-ce que c'est un dessin simple pour vous?
Alors je me suis jamais posé la question de savoir si c'était simple, mais c'est vrai que j'essaie de pas me prendre la tête et de faire en sorte que ce soit agréable. Pour que ce soit agréable à faire, en fait, pour avoir du plaisir à travailler et pas m'arrêter. Et du coup, c'est vrai que si je dois dessiner une voiture, je vais pas m'embêter, je vais faire une forme un peu vaguement voiture avec des roues, mais je vais pas regarder vraiment de la doc ou quoi. Je vais plutôt me baser sur des souvenirs ou sur l'imagination, mais je suis pas, enfin, disons, c'est pas réaliste mon style de dessin, c'est plutôt, des petits persos un peu rigolos. Et faut que ça reste un plaisir.
Qu'est-ce qui compte pour vous dans ce que vous dessinez justement dans le trait, le visage? Il y a ces yeux très ronds, on remarque ce regard. Est-ce que justement ce trait rond, c'est une de vos caractéristiques? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous entretenez autour de ça?
Je pense qu'en fait, depuis 15 ans que je travaille, j'ai trouvé un style, mais... Est-ce que je reste pas un peu trop dans ma zone de confort?
Du coup, comment vous définiriez ce style pour les gens qui n'ont pas vu encore vos dessins?
Ouais, des personnages ronds, mous. J'essaie de faire des dessins lisibles, plutôt en noir et blanc, parce que...
Vous dites mou? Ça veut dire quoi, mou? Des personnages mous?
Je fais, par exemple, je sais pas, un bras, je vais le faire plutôt rond qu'avec un coude bien pointu. un peu élastique, en fait, un peu... Ouais, un peu... Le plus simple, c'est d'aller sur bloglorel.com et de regarder, parce que c'est difficile à décrire à la radio un dessin, en fait, un style de dessin. Disons que, genre Gaston Lagaffe, genre ce genre de choses, je dirais.
Il y a un décalage aussi entre les dessins en couleur, le travail de la couleur et le noir et blanc. Est-ce que c'est justement ce que vous préférez, vous, le noir et blanc, ou est-ce que vous aimez bien cette alternance, Laurel?
J'aime bien les deux. Mais la couleur me demandant beaucoup de temps. En fait, je fais mes bandes dessinées en noir et blanc parce que j'ai envie de raconter et de poster. J'essaie de poster tous les jours ou presque des nouvelles parce que j'ai trop envie de raconter des trucs, en fait. Mais le noir et blanc, c'est super pour les BD. En plus, ça coûte moins cher à imprimer, donc je vends les livres moins cher aussi. Mais j'adore faire des illustrations en couleur.
Et du coup, le Tipeee, le système de Tipeee permet de faire ça parce que les gens qui m'aident sur Tipeee et qui me font des tips, en fait, des pourboires, ben, je leur envoie en échange un dessin, j'en fais un tous les mois. Mais c'est une illustration couleur sur laquelle je passe du temps et que je m'applique à faire en détail. Du coup, ça me permet chaque mois d'avoir les deux. Donc, dessin en noir et blanc et couleur. Et voilà, j'essaie vraiment de garder une notion de plaisir dans mon boulot parce que c'est important.
Et d'entretenir ce lien-là avec vos lecteurs comme une sorte de lien privilégié.
Mais carrément. Alors là, franchement, ça a toujours été hyper important. Les lecteurs font partie de ma vie comme, enfin, je sais pas, c'est presque une famille pratiquement. Je vous dis, il y en a que je connais depuis longtemps, il y en a qui laissent des commentaires toutes les semaines. Il y en a aussi énormément qui lisent sans jamais réagir, mais qui ont acheté mon livre pour me soutenir et c'était vraiment super.
Merci Laurel d'être venue aujourd'hui.
Ah bah merci.
Je rappelle que vous exposez des extraits de carnet à la Hubertie Brenne Galerie de Paris. C'est jusqu'au 24 août qu'on peut aller les voir. Quant à votre adresse blog, vous l'avez donnée, c'est bloglaurel.com. Quant à nous, je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été. Demain, on parlera de l'exposition Bouddha avant de faire le portrait de Tanella Boni. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Lou Le Joli, Lou Quevauvilliers et Julien Rosa. À la réalisation, Alexandra Longuet avec l'aide de Pablo Valero et à la technique, Anthony Thomasson.